Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui a désormais sa première banque, Sounou Banque Togo. Pour vous et partout au Togo, Sounou Banque vous accompagne. Sounou Banque, avec vous à chaque étape.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. D'après l'OMS, la cécité touche près de 36 millions de personnes sur la planète. Et toujours d'après l'Organisation mondiale de la santé, la déficience visuelle modérée à sévère, elle, concernerait près de 217 millions d'individus. Un risque qui augmente avec l'âge, puisqu'un certain nombre d'atteintes de l'œil sont dégénératives, comme la DMLA, peuvent constituer des complications d'autres pathologies, comme la rétinopathie diabétique, ou être liées à l'absence de prise en charge d'un trouble de la vision, comme la cataracte. Causes multiples de ces atteintes graves ou totales de la vision qui vont provoquer un handicap visuel, lourdes conséquences pour le quotidien des personnes concernées. Apprendre à ne plus voir, changer de mode de perception, réapprendre l'espace, accéder au savoir, à la culture, au divertissement, conserver son emploi ou en chercher, l'indépendance, la mobilité, travail de réadaptation. Nous parlerons dans cette émission de la place des personnes aveugles et malvoyantes dans la société, le regard des autres, l'inadaptation de l'environnement, l'accessibilité encore souvent théorique et les préjugés favorisés souvent par la méconnaissance. Alors si vous souhaitez témoigner, si vous avez une question à poser à nos invités, appelez-nous 33 84 22 75 75. Prévenir la cécité, sensibiliser le public aux déficiences visuelles, améliorer l'accessibilité, l'intégration des personnes malvoyantes ou non-voyantes. On en parle avec vous, docteur Gérard Duperron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes praticien hospitalier honoraire, ancien chef du service d'ophtalmologie du CHU de Nîmes, président du conseil d'éthique de l'association ARAMAV, qui œuvre pour les soins, la recherche et la formation dans le domaine de la déficience visuelle, administrateur aussi fédéral de la Fédération des aveugles de France. Avec nous également, Marie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable dans le secteur de la communication dans une entreprise et malvoyante. Et puis également avec nous, Amou Bouakaz, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes conseiller du 20e arrondissement de Paris, délégué de la ville inclusive et au bénévolat. J'espère que je ne me suis pas trompée, un des rares élus locaux aveugles en France. Également ingénieur de formation, c'est bien cela ?
J'ai cru comprendre qu'on avait donné ce diplôme.
Oui, il paraît, oui.
Je le mérite.
Alors, on va voir au cours de cette émission. Je pense que vous allez me donner aussi surtout beaucoup de fil à retordre. Et conférencier, c'est promis, sur les problématiques de diversité et d'inclusivité. Et puis, Marie, vous êtes venue accompagnée de votre chien guide, Délice, qui est avec nous. Et c'est une grande première pour moi. Il est à mes pieds, tout tranquille. J'espère que ça va rester comme ça pendant toute l'émission. Cause et prise en charge de la cécité, très différente en fonction du contexte, bien sûr. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec le professeur Founikoun Meda, ancien chef de service en ophtalmologie au CHU Yalgado Ouédraogo à Ouagadougou au Burkina Faso. Et puis en fin d'émission, on va parler du système PRIMA, un plan rétinien développé dans le cadre de la prise en charge de la DMLA sèche. On en parlera avec Guillaume Buc, ingénieur chez Pixum Vision.
Priorité santé sur RFI.
On l'a compris, programme chargé, je le disais à l'instant, pour commencer, ces causes de la déficience visuelle, docteur Gérard Duperron, pour fixer bien les choses, elles peuvent varier de manière très significative en fonction du contexte géographique, en fonction du contexte social, ce qui veut dire tout simplement qu'on n'est pas aveugle pour les mêmes raisons que l'on soit ici à Paris ou par exemple au Soudan, au Burundi ou au Sénégal.
Tout à fait. C'est le cas dans toute la médecine, mais c'est particulièrement le cas en ophtalmologie. Disons de façon un peu schématique, si on se situe un peu dans nos longitudes, eh bien que dans les latitudes nord, au nord de la Méditerranée, on va avoir affaire plutôt à des maladies dégénératives, en particulier liées à l'âge. Citons la cataracte, mais qui ici n'est plus une cause de cécité, puisqu'elle est facilement opérable, et d'autres causes dégénératives, la rétinite pigmentaire, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, donc des causes dues à l'âge ou à la génétique. Et lorsqu'on franchit la Méditerranée, et ça commence dès l'Afrique du Nord, mais bien sûr ça devient de plus en plus aigu dès qu'on arrive en Afrique, on va avoir affaire à des causes qui touchent beaucoup plus aux maladies infectieuses, aux maladies parasitaires, avec une place aussi tout à fait particulière pour le glaucome, qui est une véritable catastrophe dans les pays d'Afrique.
Ce qui fait dire d'ailleurs à l'OMS que 80% de l'ensemble des déficiences visuelles sont évitables ou curables, docteur Duperron. 80%, ça veut dire qu'une grande partie de ces problèmes oculaires n'ont pas été pris en charge à temps ou de la bonne manière, par exemple, dans les pays où il y a un très faible accès aux soins.
Voilà, il y a le problème, c'est le dépistage et la prévention, et ensuite, effectivement, des soins curatifs. Et donc, mettre en place notamment des soins de santé primaire, hein, c'est ça qui est en cause et qui permettrait effectivement de faire reculer, d'obtenir cet objectif que malheureusement, on voit aujourd'hui, là, depuis 2 mois, on n'a pas tout à fait atteint, qui était l'objectif de l'OMS, c'était l'objectif 2020, c'était en 2020 de supprimer, c'est un objectif qui a été signé, je crois, en 1999 ou 2000, je crois. Et l'idée, c'était que tout ce qui était curable soit pris en charge et traité en 2020. Ça n'est malheureusement pas encore le cas.
Alors, notre sujet du jour, hein, c'est pas la prise en charge, la prévention. On va pas aborder une pathologie spécifique comme le glaucome, le trachome ou la cataracte. Non, il s'agit davantage de comprendre ce qu'être non-voyant ou malvoyant change dans le quotidien, dans les apprentissages, les habitudes, les activités, les relations avec les autres. Aveugle de naissance, à Moubouakaz, votre expérience n'est donc pas celle de l'adaptation à la perte de la vision, mais bel et bien une perception différente, un rapport sensoriel différent. Première question sur ce thème d'aveugle à Moubouakaz. Vous êtes à l'aise avec ce mot ?
Oui, mais d'ailleurs je suis à l'aise avec tous les mots, vous savez. L'essentiel, c'est qu'on entre en contact avec moi.
Alors
c'est-à-dire
vous...
que la force de ce contact-là va être le premier générateur de mon accès au monde. Vous voyez, donc c'est qu'importe comment on m'appelle, à partir du moment où on me parle, je peux rééduquer, je peux expliquer.
Et ça se passe aussi par la voix. Vous sentez justement parfois une certaine gêne quand on vous parle, des gens qui vont à tâtons un peu comme ça, avec une prudence, ou vous percevez quand même que les gens sont plutôt à l'aise avec vous ?
Tout dépend de comment ils sont à l'aise avec eux-mêmes, je suis tenté de vous dire. C'est assez logique que quand on est confronté à l'altérité avec ce qu'on connaît pas, on y aille avec un peu des pincettes. Surtout, dans un monde où on a une sorte de quête identitaire, où chacun aspire à être très respecté et très à cheval sur la façon dont on lui parle. C'est assez logique que l'être qui est présumé normal, entre guillemets, soit en difficulté face à celui qui est anormal, au sens où il ne ressemble pas à la majorité des gens.
Atypique. Mais,
voilà, atypique. En fait, il faut prendre son courage à deux mains quand on est atypique. On est minoritaire, on doit faire de la pédagogie et c'est bien comme ça.
Et expliquer aussi aux autres ce qui se passe et décrire ce que l'on est parfois. La plupart des invités qui viennent en studio posent à côté d'eux le téléphone portable. On le met sur la position avion pour pas qu'il y ait d'interférence. Alors vous, depuis que vous êtes là, vous pianotez sur une machine que je ne connais pas. Vous allez me décrire ce que c'est.
En fait, c'est une petite machine qui est connectée en Bluetooth sur mon téléphone portable, ce qui m'évite de le sortir. Mmh. Et en fait, je pilote mon téléphone portable qui contient des tas de notes, des tas d'emails que j'ai pas eu le temps de lire. Et donc, comme vous me regardez pas trop ce que je fais, j'écluse mon courrier pendant que
je suis en train de parler. Si, je vous vois, vous êtes en train de lire en braille, voilà, du bout des doigts, tranquillement,
alors,
incognito.
Le braille, c'est du couscous qui a réussi, hein. c'est des points qui sortent. Et donc, moi, par exemple, au cinéma, je peux tweeter, je peux Facebooker. Vous voyez, donc, le handicap visuel, quand il est bien pris en charge, quand on vous a donné les techniques qui permettent de compenser, peut même avoir quelquefois des avantages.
Si j'étais prof, j'aurais tenté de vous le confisquer.
Amou Bouakaz,
quand on regarde votre carrière professionnelle, vos responsabilités au sein du monde associatif, y compris même des activités politiques, vous considérez que votre cécité vous a fermé certaines portes ou à l'inverse, vous a offert un nouveau champ des possibles ?
Écoutez, chaque être vivant, chaque être humain se voit fermer des portes simplement parce qu'il va vivre X années et que donc il y a des tas de frustrations qu'il va avoir à gérer. Donc en effet, ça m'a fermé des portes, mais disons ça m'a permis de peut-être filtrer et de mieux, je trouve pas le mot en français, focusser en fait sur des désirs.
Ciblés,
voilà. Je crois pas que ça m'ait fermé des portes au sens propre, ça a simplement... ça m'a permis d'aller plus vite dans des choix, mais au fond, je crois pouvoir dire que je me suis forcé d'avoir comme moteur d'être partout où on m'attendait pas. Mais par exemple, Tout le monde rêve d'être un bon footballeur. C'est pas ma cécité qui m'a fermé la carrière footballistique. C'est mon inaptitude à courir vite et à arrêter de manger pour avoir la forme. Vous voyez,
c'est comme moi pour le mannequinat. C'est un peu voilà, ma 1m50 qui m'ont un peu bloqué.
Ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir.
Cheminement, atteinte visuelle différente, très différente. Hein, pour vous, Marie, dans votre cas, la maladie s'est déclarée au moment où vous entriez à l'école primaire. Alors déjà, comment s'appelle votre maladie des yeux?
Le Stargardt.
Alors c'est compliqué, c'est quoi précisément?
Alors je pense que je vais laisser
le docteur Gérard Duperron. Le Stargardt, moi j'ai découvert le nom, ce drôle de nom, on dirait plutôt le nom d'une station de ski en Autriche, qu'est-ce
oui,
que c'est?
Alors c'est un peu moins rigolo que Gstaad, oui. la maladie de Stargardt fait partie de ce qu'on appelle, c'est la plus grande des maculopathies juvéniles, en gros c'est la DMLA du jeune. Et donc ça consiste en la perte de la vision centrale, c'est-à-dire la perte de la vision des détails, des couleurs aussi, mais surtout de la vision des détails, puisque notre vision est composée de vision centrale des détails et de vision périphérique, qui est la vision d'alerte et de repérage. Voilà.
Alors c'est toujours difficile de décrire sa capacité visuelle. J'ai une chevelure rousse assez voyante. Et vous voyez quoi? Une sorte de tache autour de halo?
Non. Je suis arrivée au stade des perceptions, c'est-à-dire que j'aime bien dire que je vois plus, je perçois. Donc, on va dire que les situations de contraste m'aident énormément. Si vous étiez toute seule au milieu d'un mur blanc, je pense que j'arriverais beaucoup mieux à identifier les détails de votre chevelure que là, sur un fond
Oui, il y a d'autres teintes, c'est plus compliqué.
Ouais, ouais.
Quand est-ce que le nom de la maladie a été mis sur votre problème de vision?
Je pense vers l'âge de 15 ans, à peu près.
Et vous sentiez-vous que quelque chose n'allait pas dans votre perception?
Oui. En fait, moi, c'est un petit peu particulier mon histoire parce que ma famille a fait un déni, donc personne ne m'en a parlé. Et c'est moi toute seule qui ai mené l'enquête à l'âge où j'étais capable de faire ça toute seule, c'est-à-dire à l'adolescence. Avant, j'étais trop petite, je pense, pour prendre ce genre d'initiative.
Est-ce que vous avez cherché à comprendre pourquoi il y avait quasiment eu cette omerta sur votre perte de vision? Pourquoi on ne vous avait pas dit que quelque chose n'allait pas et qu'on pouvait peut-être améliorer, au moins encadrer certaines choses?
Non, j'ai pas. En fait, je faisais partie de l'omerta, puisque forcément j'ai été élevée comme ça. Non, j'ai pas cherché à savoir. Maintenant, j'ai des hypothèses, mais ça relève plus de la psychologie que d'autres choses. Donc.
Et une fois que vous avez eu justement pris conscience du problème, qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a été une sorte de claque ou est-ce que ça a été à l'inverse le début de la raison? Est-ce que c'est passé par un moment très douloureux ou pas?
Oui, il y a eu un moment douloureux. Alors, la douleur, elle est plus venue du traitement de cette pathologie par ma famille que de la pathologie elle-même. C'est-à-dire que j'ai regretté de pas, par exemple, maîtriser le braille. Enfin, il y a une période de ma vie à l'adolescence où je n'étais pas brailliste. Je voyais vraiment, je pouvais plus lire ni écrire. J'étais pas brailliste. Je pouvais plus utiliser un stylo. L'informatique n'existait pas encore, donc j'étais
démunie.
Complètement démunie. Donc oui, forcément, vous avez une réaction de déprime et de colère, quoi, à ce moment-là, quand vous rendez compte que vous avez rien. Et voilà. Et puis après, on se redresse. Enfin, quand j'ai été en âge de pouvoir agir, j'ai agi. Voilà.
Et vous avez réappris.
Exactement.
Alors cet apprentissage, c'est la réadaptation, c'est bien cela. Docteur Gérard Duperron, il y a énormément de pistes, d'outils, de pratiques pour réapprendre à vivre quand on n'a plus cette perception visuelle.
Voilà, alors les bases sont simples, on va essayer de simplifier un petit peu tout ça. Il y a deux grands axes, si vous voulez, quand on est déficient visuel. Pour les personnes qui ont encore un petit peu de vision, ce qu'on appelle la vision fonctionnelle, ce qui est le cas de Marie, qu'elle a très bien décrit d'ailleurs, on va utiliser cette vision fonctionnelle. Dans son cas, on perd la vision centrale, et bien on va essayer de compenser par la vision périphérique. À côté de ça, il y a deux sens compensatoires dont on a parlé tout à l'heure, et chez les aveugles complets et en particulier congénitaux, on va travailler là-dessus, qui sont le sens tactile et le sens des déplacements. Et Marie, je l'ai noté parce que elle a très bien décrit ce qu'est la réadaptation. Elle nous a dit tout à l'heure, plus ma maladie a évolué, évolué et plus j'ai tendance à dire que je ne vois plus et que je perçois. Mm-hmm. C'est tout à fait cela. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la vision, quand on voit très bien, on se rend compte que, on a l'impression que la vision c'est l'œil. En fait, la réalité c'est pas ça. La vision c'est la représentation mentale que le cerveau se fait de ce qu'il y envoie de l'œil. Mm-hmm. Quand l'œil ne fonctionne plus bien, eh bien on va donner, et c'est le terme percevoir, c'est ça. On va donner plus d'importance au cerveau qu'à ce que fait l'œil lui-même. Voilà, c'est ce que vous devez faire, Marie, je pense. Voilà.
Et améliorer quand c'est possible, hein, justement. On l'a dit, de très nombreuses pistes pour cette intégration, pour cet apprentissage. Il y a les techniques de compensation, on va en reparler, mais tout de suite, un reportage.
Priorité santé sur RFI.
Expérience concrète à laquelle s'est prêté notre reporter, Charlie Dupiot, se placer pour quelques heures dans la peau d'un non-voyant dans les rues de Paris. Alors c'est une formation pour devenir instructeur en locomotion qui est dispensée par la Fédération des aveugles de France. Les élèves vont devoir se déplacer un bandeau noir sur les yeux. Objectif du jour, réussir à prendre le bus. Pas forcément facile, hein. Charlie Dupiot en a fait l'expérience en compagnie de deux autres élèves, Eric et Pierre, et de la formatrice Alexia.
On va traverser et puis on va aller à l'autre arrêt. Donc je vous propose juste après la traversée de se mettre sous bandeau.
La première, hein, ou la deuxième?
La deuxième.
Okay. Et moi aussi on va mettre sous bandeau.
Et avec une canne.
Merci. Ça va être pas facile avec le micro mais on va y arriver. Voilà, c'est bon, j'ai mis un bandeau. J'ai une canne aussi.
Est-ce que vous avez à lui donner des informations particulières sur la configuration de l'arrêt de bus?
On a vu que l'arrêt de bus, il pouvait être soit être super large, comme on a derrière, soit ça peut être juste un petit poteau.
Voilà, donc il y a deux configurations différentes, en tout cas à Paris.
On est bien d'accord qu'on fait en technique de guide jusqu'à l'arrêt de bus.
Alors, du coup, on va le faire. On part du principe que la prise de repère a été effectuée. Ouais. Donc, on va aller jusqu'à l'arrêt de bus.
Donc là, on est dans la rue, à un croisement, et on va jusqu'à un arrêt de bus.
Voilà, en technique de guide. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir besoin de votre canne, vous allez tenir le bras de votre guide.
D'accord.
Pour aller jusqu'à l'arrêt de bus.
Allez, Eric, tiens, et donc mon guide, c'est vous.
Le bras comme vous ils voulez. Font vraiment dans les instituts, les jeunes.
Voilà, là on arrive à l'arrêt de bus. Je vais vous positionner. Vous me suivez?
Je vous suis.
Là, et là, je ne sais pas si vous avez ressenti, vous tournez-vous un petit peu. Voilà.
Comme là, on ça, pour être,
on est à l'arrêt de bus et on est face à la route en attendant qu'un bus veuille bien venir.
C'est vrai qu'on entend les voitures en face de nous, là.
Bah ça, ça peut nous aider à nous orienter par rapport à la route, justement. C'est l'audition de la circulation des voitures qui va aider la personne malvoyante à s'orienter le mieux possible par rapport à la route.
Et comment on sait que c'est le bon bus, alors?
Alors, le bon bus, il y a des applications qui existent.
Sur téléphone?
Sur téléphone. Alors, maintenant, il y a beaucoup de choses qui se font sur téléphone qui permettent, justement, aux personnes non-voyantes ou malvoyantes d'avoir des indications comme ça. Après, il y a la demande d'aide, bêtement.
Donc demander aux passants.
Exactement, aux autres usagers, savoir s'ils sont, si c'est bien le bon bus qui arrive. Et puis enfin, nous, on avait pensé aussi à ce qu'on puisse demander au chauffeur aussi.
Alors en général, la canne, on va la tenir en diagonale devant. Et puis, il faut faire un balayage à droite et à gauche, qui correspond globalement à la largeur des épaules et un peu plus, pour que la canne, elle détecte tous les obstacles qui vont être devant. Donc vous pouvez essayer de marcher.
Donc là, je fais un balayage comme ça, voilà. Une espèce d'arc de cercle.
Exactement. Et là,
je suis en train de rentrer dans quelque chose.
Alors, la canne a touché quelque chose.
Ouais.
Alors, la deuxième étape, ça peut être d'essayer d'identifier ce que c'est.
En touchant avec la canne.
En touchant avec la canne. Alors, effectivement, à l'extérieur, on utilise ce qu'on appelle le toucher instrumental, c'est-à-dire par l'intermédiaire de la canne. On ne va pas toucher avec les doigts forcément, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être pas forcément très propres.
Donc là, par exemple, je vais contourner un peu cet objet avec ma canne. On dirait que c'est un panneau.
Alors, c'est pas un panneau.
C'est une poubelle?
Non.
C'est l'abribus, en fait?
Oui, on est sous l'abribus. Et donc, alors, qu'est-ce que ça pourrait être précisément sous l'abribus, cette chose?
Un banc en fait.
Oui, exactement.
Ah, c'est un banc.
Alors là, vous avez entendu, qu'est-ce qui vient de se passer?
Un bus qui vient d'arriver.
Voilà. Donc on a la chance à Paris, certains bus sont sonorisés et dès qu'ils arrivent, on peut savoir la direction et le numéro du bus. Donc on va y aller.
J'avance.
Ouais, alors okay. On va, du coup, vous voulez
monter. On va monter.
Allez, hop, on va monter. Alors, Charlie, prenez ouais. Peut-être moi le bras.
Ouais, je vous prends le bras. Je suis trop lente. Ok.
Donc, la petite marche.
Donc là, il y a une marche, ouais.
Voilà, hop. Ouais. Ça, c'est où est le composteur. Après, c'est
alors moi, je
juste
sais pas.
Derrière.
Derrière.
Alors, voilà.
Pourtant, je connais les bus, mais ok, c'était là. D'accord. Je me sens un peu encombrante. Voilà.
On va descendre.
Allez.
Vous prenez le...
Je vous suis, ouais. Vous me dites quand il y a la marche.
On va descendre.
Et là, voilà, on descend. Et là, on va descendre. Ah oui, là, il y a la marche. Là, voilà. Ok, on est sur le trottoir.
Et on est sur le trottoir.
Un peu stressant le moment de la descente.
C'est vrai.
Ouais. Avant de descendre, faut balayer pendant...
Ce que ça pointe, c'est que cette entrée et cette sortie du bus, il va falloir la travailler, la systématiser. Et ça peut être de passer des séances en amont, avant de penser au trajet en bus, de prendre des séances pour c'est quoi un bus, comment est configuré un bus, comment sont les places.
Mais même nous qui avons déjà pris le bus, moi j'ai découvert plein de choses. Par exemple, comment attraper la poignée, comment... Pourtant j'avais plein d'images du bus, mais même ça, c'est compliqué d'avoir des repères en fait. C'est assez effrayant.
Après, c'est effrayant pour vous parce que là, tout d'un coup, vous avez été mis sous bandeau. Hein. Les gens qui vivent ça au quotidien, ils arrivent à surmonter quand même leur peur. Et quand ils sont à l'étape de vouloir prendre le bus et de faire des trajets seuls, c'est qu'ils ont voilà, dépassé un certain nombre d'appréhensions et qui sont psychologiquement un peu plus prêts.
Mais ça demande beaucoup de travail.
Charlie Dupiot, stagiaire d'un jour formation, il faut souligner qu'il dure 8 mois. On a entendu ce mot dans la bouche de Charlie, pas du tout rassuré, hein, la peur. Marie, elle parle de sa peur, Charlie, notre reporter. Est-ce que vous avez connu cela?
Oui, j'ai connu justement à ce moment de l'adolescence où j'ai dû j'ai réalisé que ce que je faisais était dangereux parce que j'ai été livrée à moi-même depuis que je suis petite. C'est-à-dire que forcément, comme on s'occupait pas de moi, je traversais les rues, je faisais tout toute seule. J'ai réalisé que tout d'un coup, ce que je faisais était dangereux. Mais en fait, on apprend complètement à domestiquer la peur, le stress, l'angoisse. Et enfin, j'en sais rien pour les autres, mais moi, je suis devenue une personne qui est dénuée de stress et très peu angoissée. Et je pense que c'est parce que on apprend à maîtriser cette peur. Et puis, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, on se lance. Et puis,
l'apprentissage avec la canne blanche, avec le chien, comment est-ce que ça s'est passé?
Alors, en fait, moi, je suis arrivée il y a peu de temps, il y a 4 ans à l'école des chiens, en disant « je veux un chien ». On m'a dit « pas de chien, pas de canne blanche. » Donc, j'étais obligée.
Parce que vous étiez réticente sur...
Oui.
Pourquoi? Parce que vous trouviez ça stigmatisant?
Oui.
Ouais.
Et puis, parce que je suis très coquette et que je trouvais ça moche.
Voilà. Ah bon? Moi, je trouve pas moche.
Oui, mais c'est
drôle.
Comme ça.
Chacun ses goûts, effectivement.
Voilà,
on discute pas les goûts
exactement.
Et les couleurs.
Donc, je trouvais ça pas joli. Je trouvais pas ça féminin. Donc, j'ai un peu... Et puis, je crois que je suis pas la seule. Je crois qu'il y a beaucoup de... Je parle des malvoyants, pas des non-voyants. Il y a aussi toujours repoussé nos limites pour repousser la pathologie. C'est-à-dire, non, elle n'est pas là, je me débrouille encore très bien tout seul, il y a de ça.
C'est la poursuite aussi du déni d'une certaine
exactement,
façon.
Exactement, voilà.
Amou Bouakaz, cette canne, vous l'avez avec vous depuis toujours?
Oui, en fait, mais en fait, c'est pas tant la canne que Marie prenne l'école. L'école voulait dire à Marie qu'on ne peut pas prendre de chien si on n'a pas pris le temps d'analyser la circulation. Et donc, avec cette canne, c'était le médiateur entre Marie et la circulation autour d'elle. Et ce qui va surprendre Marie, c'est que tout aveugle de naissance que je suis, pourtant j'ai quand même 56 ans, on prend jamais sa retraite avec cette cécité, donc je devrais être un super pro. Mais je suis absolument nul en orientation. Donc quand je suis arrivé à l'école des chiens pour prendre un chien moi aussi, on m'a dit la même chose que toi. T'as une canne, mais on va t'apprendre à analyser les carrefours. Vous voyez? Parce qu'en réalité, tout ça ne s'improvise pas. Et si, selon la manière dont vous appréhendez votre cécité, vous allez vous familiariser avec les carrefours différemment. Moi, par exemple, je suis un utilisateur de genre humain. Je suis débiteur de temps homme. voyez. Et donc, en fait, je passe mon temps à demander de l'aide. Je fais du voyant stop, c'est mon moyen de transport favori. C'est un moyen de transport non polluant, qui va à la même vitesse que vous. Vous trouvez toujours des véhicules. Et puis, le véhicule, il peut être béninois, il peut être colombien, il peut être... Et donc, vous faites le tour du monde en une journée. C'est quand même extraordinaire.
Si on remonte dans vos souvenirs, on a demandé à Marie, justement, cet apprentissage, comment adopter cette canne blanche. Vous vous souvenez, vous, à Moubouakaz, comment... Vos premiers pas, tout ça, cet espace, ou c'est quelque chose qui est complètement dans les méandres de vos souvenirs, plus du tout?
Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, moi, c'est pareil, ça a été relativement nié, puisque nous, on vivait tous en famille, donc la cécité, c'était que le plus petit de nos problèmes. On venait d'émigrer à Paris, on vivait dans des petites baraques à Nanterre, donc si vous voulez, le problème, c'était la survie. Donc aveugle, c'était... Moi, j'étais arabe et aveugle, vous comprenez, donc j'étais cumulard de l'altérité, donc j'ai eu la chance d'être aveugle, parce que du coup, on a oublié que j'étais arabe. Moi, j'ai eu cette chance-là, j'ai tout de suite été pris en main par le génie français, c'est-à-dire sa capacité à donner plus à ceux qui ont moins. J'ai été scolarisé dans des écoles spécialisées, et donc on était entre nous. Donc je me souviens plus vraiment d'un hiatus. Mais c'est à l'âge de 14-15 ans, quand il a fallu aller au lycée ordinaire, que quelqu'un m'a dit « Bon, ben, on va t'apprendre à circuler, parce que tu vas sortir de l'univers très protecteur du système spécialisé, et tu vas aller dans le grand bain. » C'est là que j'ai commencé à prendre ma canne et à me rendre compte à quel point j'étais absolument nul en locomotion.
Mais heureusement, les autres étaient là pour vous donner un petit coup de main. Heureusement, dimension sociale, relationnelle de ce handicap visuel, docteur Duperron, est-ce que c'est directement intégré dans la prise en charge, dans votre spécialité?
Oui, tout à fait. Dans la spécialité, j'allais dire, de réadaptation, hein, puisque le rôle des médecins, il est dans la prise en charge de la déficience visuelle, il est de prévenir, puis de soigner, de réadapter, et puis on en parlera tout à l'heure aussi, de chercher des solutions de compensation technologique ou génétique. Donc, dans les centres de réadaptation, on a plusieurs aspects. On a cet aspect, c'est-à-dire qui va consister à rechercher les ressources physiologiques propres du patient. Hein, c'est, je dis en termes un peu plus scientifiques, ce que nos amis viennent de dire, c'est-à-dire... tout ce qui va permettre de faire la représentation mentale en tenant compte de mots un peu compliqués qu'on appelle la proprioception, la kinesthésie, voilà, des tas de choses comme ça, donc qui permettent d'apprendre à se servir ou d'un canne ou d'un chien, si on ne se sert pas d'un chien, on utilise ses services, ou à se servir d'un œil électronique qui n'est pas encore au point, et on verra que c'est à peu près les mêmes choses. Et puis l'autre aspect, effectivement, c'est que tout ça, c'est un but, c'est de se réinsérer le plus autonome possible dans la société, et donc cette dimension-là, cette dimension à la fois sociale et économique, et prise en charge dans les centres de réadaptation. C'est ce qui fait l'intérêt de ce métier. C'est un métier à la fois très scientifique, avec des bases scientifiques, et des objectifs très humanistes. Voilà.
On va tout de suite prendre un auditeur de l'émission en ligne.
RFI.
En ligne de Guinée, de la ville de Boké, c'est Abdoulaye. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour.
On est à votre...
Bonjour, présidente Carré.
Enchanté, Abdoulaye. On vous écoute, le docteur Duperron est à votre écoute, allez-y.
Ok, docteur, bonjour.
Bonjour, Abdoulaye.
Ok, je suis à Boké, une ville située à 200 et quelques kilomètres de la ville de Conakry.
Mm-hmm.
Et je suis avec mon père.
Mm-hmm.
Il est un fonctionnaire d'État et un instituteur. Mm-hmm. Il a fait 40 ans de service.
Mm-hmm.
2015, il est passé à la retraite.
Mmh.
Et de nos jours, il est aveugle. Depuis 2008, sa vision avait commencé à lui menacer.
Mmh.
2008.
Mmh.
Donc, c'est 2008 qui a commencé. Au fur et à mesure que la maladie progresse...
C'est un glaucome, c'est ça?
Oui, glaucome, oui.
Mmh.
Donc, il a opéré... un œil, l'autre n'a pas été opéré. Donc, en fait, aujourd'hui, il est devenu aveugle, il ne voit plus rien.
Il y a eu d'autres cas de glaucome dans votre famille?
Oui, sa maman,
mm-hmm.
et la maman aussi de sa maman, ce qui veut dire sa grand-mère. Et quand tu regardes aussi dans notre progéniture, dans notre famille, c'est-à-dire la sœur ou bien les sœurs de sa maman, ses enfants, etc., ses petits frères, et c'est demi-frère, je crois bien, si je peux me permettre le mot.
Et Abdoulaye, c'est ça qui vous inquiète aujourd'hui, c'est que cette maladie, le glaucome, puisse être héréditaire et que vous puissiez donc vous aussi être concerné à l'avenir.
Oui, oui, oui. Est-ce que ma vie serait-elle menacée dans l'avenir ?
Docteur Gérard Duperron, sur ce caractère héréditaire du glaucome, est-ce que vous avez, sans bien sûr prédire l'avenir d'Abdoulaye, c'est impossible, mais des éléments à lui apporter sur cette hérédité de la maladie ?
Alors oui, je vais essayer d'ailleurs à la fois de le rassurer, mais de lui expliquer qu'il faut continuer à se faire surveiller. Il y a des maladies qui sont vraiment héréditaires, hein, c'est le cas des rétinites pigmentaires, et puis il y a des maladies où on a un terrain familial. Bon, là on est plutôt dans le deuxième cas, c'est-à-dire que ce que vous racontez avec les cas familiaux qu'il y a chez vous, il y a manifestement un terrain familial qui prédispose à cette maladie. De là à y voir le caractère inexorable d'une transmission héréditaire, non. Et le fait quand même qu'à 26 ans, vous n'ayez pas encore de signes, c'est quand même assez rassurant. Mais pas suffisamment pour complètement négliger, se dire je ne fais rien. Donc effectivement, c'est qu'il faut continuer à faire, surtout que bon, le glaucome en Afrique est quand même une maladie très 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 présente. Il faut continuer à se faire surveiller. Le problème est là. Le problème, c'est que si vous avez accès à un endroit où tous les ans ou tous les deux ans, vous pouvez aller faire un bilan un peu complet qui est assez simple. Il faut prendre l'attention de l'œil, faire un champ visuel et regarder au fond d'œil l'état du nerf optique. Si tout ça est bon, on peut être rassuré dans les deux ans qui viennent et deux ans après, on continue à se faire surveiller.
Abdoulaye, est-ce que vous êtes déjà allé voir un ophtalmologiste ?
Oui, oui, je suis allé dans la clinique de mon père à Conakry.
Et qu'est-ce qu'il vous a dit ? Vous êtes, sur votre pression de l'œil ?
Et ils m'ont dit que tout va bien.
Eh ben, c'est rassurant, c'est une bonne chose.
Ouais, ils m'ont dit que tout va bien.
Et donc, ce que vient de vous dire le docteur Duperron, c'est donc de continuer sur cette bonne voie, c'est-à-dire régulièrement de faire des examens pour surveiller, pour le cas échéant, pouvoir avoir une prise en charge.
Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup.
On vous remercie beaucoup.
Merci. Avec plaisir. Et faites-vous bien surveiller.
Voilà. Et on va partir tout de suite pour le Burkina Faso.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Nonfouni Koumeda, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes l'ancien chef du service d'ophtalmologie au CHU Yalgado Ouédraogo Douaga. Professeur, est-ce qu'on dispose de données qui concernent les déficiences visuelles sévères ou même la cécité au Burkina Faso ?
Oui, nous avons fait une petite enquête locale dans une région en 2011. Mmh. Et nous avons trouvé que la déficience, il y avait 0,8% de prévalence de la cécité. Mmh. Et concernant les déficiences visuelles, nous avons, bien sûr, chez les personnes de plus de 50 ans, nous avons 3,4% de... Nous avons 8% de cécité chez les personnes de plus de 50 ans.
8%, c'est très important. Est-ce que les causes de ces cas de cécité ont été globalement identifiées ?
Oui, bien sûr. La principale cause, c'est la cataracte, autour de 70%.
Donc, énorme prévalence de la cataracte.
Oui, la cataracte suivie justement du glaucome et des affections du segment postérieur, ça veut dire les DMLA, les séquelles d'onchocercose, le diabète
professeur,
et les complications.
Professeur Meda, on va parler de la prise en charge dans quelques instants, mais on va tout de suite donner la parole à un autre auditeur de l'émission. Il est en ligne avec nous tout de suite, c'est Opa. Bonjour Opa.
Bonjour madame.
Vous nous appelez de Temba au Sénégal. Opa, alors le professeur Meda vous écoute, il est en ligne de Ouagadougou. Allez-y, posez-lui votre question, racontez-nous ce qui vous arrive.
Ouais, ce qui m'arrive, c'est la maladie des yeux, c'est une mousse qui pique le corps aux rizières. Mmh.
Donc et c'est l'onchocercose, c'est ça hein?
Ou l'onchocercose, oui, c'est ça.
La cécité des rivières. Et ça fait depuis combien de temps que vous avez perdu la vue au pas ?
À peu près plus de 10 ans que j'ai perdu la vue. Hein. Mmh. Mmh. La maladie, ça me grotte le corps, tout le corps, ça me fait gratter.
Oui. Et vous avez une question à poser au professeur Meda concernant votre maladie ?
Oui.
Allez-y.
Les, Le médecin, si mon corps me gratte, même les yeux qui me font gratter, ça devient aveugle petit à petit, jusqu'à présent, maintenant, je ne vois plus rien.
Mm-hmm. Donc, vous voudriez savoir s'il y a quelque chose pour vous soulager ou pas, c'est ça?
Oui, si faut pour vous soulager, je n'en ai besoin.
Vous avez besoin d'être soulagé. Professeur Méda, il y a quelque chose qu'a dit Opa et qui est très significatif. Il dit que c'est la maladie des vieux, la maladie des yeux aussi, parce que cette onchocercose, elle est en fort recul. Malgré tout, il y a encore un certain nombre de personnes qui en ont les séquelles de cette maladie parasitaire, cette cécité des rivières. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire en ce qui concerne le malaise qu'il ressent? Opa nous parle de démangeaison. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Merci pour cette question, madame. Je vais conseiller à ce patient d'aller consulter soit un médecin généraliste qui saura l'orienter dans un service de dermatologie et ou d'ophtalmologie.
Oui.
Parce que, comme vous l'avez si bien dit, nous avons encore quelques cas résiduels. Le Burkina Faso est une zone d'endémie onco-cerquienne. C'est là même que se trouve le siège de l'ancien programme onco, le programme OCP, qui a été fermé parce que la maladie n'est plus au stade santé publique. Mais il y a des cas résiduels qu'on prend au cas par cas dans le pays. Je crois qu'il s'en va, s'il va dans un service de santé, on va l'orienter.
D'accord, donc il faut une prise en charge. D'accord.
Oui.
Voilà, Opa. Donc il faut aller au centre de soins. On dira à ce moment-là quel médecin il faut que vous voyez pour pouvoir vous soulager, pour que ce soit moins compliqué, moins désagréable dans votre quotidien. Est-ce que c'est possible d'aller consulter un médecin?
Oui, c'est possible d'aller consulter un médecin.
Donc c'est très important de le faire. Bon courage, Opa. On vous souhaite une excellente journée. Professeur Méda, au-delà des cas, des diagnostics, en termes de réadaptation, qu'est-ce qui existe au Burkina, par exemple, pour les enfants aveugles de naissance, pour qu'il ait des chances d'apprendre, pour qu'il ait des chances d'avancer dans la vie?
Ça, c'est le véritable problème dans notre pays. La prévention de la cécité est assurée pour le moment par des associations. Par exemple, l'association burkinabé de prise en charge pour la promotion des aveugles malvoyants. Mm-hmm. Ils ont des places limitées. Mm-hmm. Au niveau du ministère de la Santé, on a toujours parlé d'un programme de prévention, mais il traîne à naître. Dans les autres pays, il y en a, mais chez nous, nous avons des problèmes de mise en place de ces fameux programmes.
Donc, professeur Méda, ce que vous voulez, c'est lancer un appel au pouvoir public pour qu'il y ait davantage de moyens déployés pour l'aide et la prise en charge des personnes malvoyantes.
C'est le souhait absolu des ophtalmologistes.
Merci infiniment pour tout cet éclairage. Professeur Nonfouni Koumeda, merci d'avoir été en ligne du Burkina Faso.
RFI à Ouagadougou, 94 FM.
Amou Bouaka, c'est quelque chose que vous avez souligné tout à l'heure au détour d'une phrase que j'ai retenue sur ce système français qui vous a permis d'être ingénieur, d'être élu local, de pianoter en ce moment, de lire vos messages sur votre petite machine en braille. Tout ça, c'est quand même des possibilités exceptionnelles qui vous ont été offertes.
Oui, mais je voudrais délivrer un message d'encouragement à mes amis africains. L'émergence des nouvelles technologies, la solidarité internationale, nous avons une association des aveugles francophones auxquelles nous autres aveugles français sommes extrêmement attachés, va porter ses fruits et le mouvement inexorable du progrès fait que nos amis africains, pour peu qu'ils ne soient pas terrassés encore par des crises, des dictatures et toutes sortes de fléaux qui les ont quand même pas mal malmenés, vont pouvoir bénéficier finalement de choses merveilleuses. Par exemple, je vous disais tout à l'heure que mon véhicule principal était le voyant stop, mais c'est parce que je suis un feignant. Aujourd'hui, j'utilise un smartphone. Dans ce smartphone, vous avez un GPS extrêmement précis que je peux tout à fait utiliser en complément de mon voyant stop et qui peut tout à fait me guider. J'ai dans mon smartphone une sorte d'application qui est un quasi appareil photo descripteur. Je le tourne vers vous, il va me dire joli visage, il me dira peut-être pas que vous êtes rousse, mais il me donnera suffisamment de précision pour que je sache que vous êtes un homme ou une femme, vous voyez. Donc tous les jours, il y a des nouvelles technologies qui, pour peu qu'on se les approprie, et c'est pas très compliqué, bah vont permettre aux déficients visuels d'avoir une vue plus facile. D'autant que tout ce qui est développé pour les déficients visuels va rendre service à tout le monde. C'est une banalité que de le dire, mais tout à l'heure on a parlé des arrêts de bus. Aujourd'hui, tous les arrêts de bus à Paris, les stations sont annoncées. Alors bien sûr, pour les aveugles, c'est vital. Mais pour vous ou moi qui aimons la poésie et qui lisons Apollinaire dans le bus, eh bien, qui sommes distraits, ben, on est rappelé à l'ordre par le nom de l'arrêt.
Ça sert à tout le monde. Marie, comment vous réagissez par rapport aux témoignages qu'on a entendus en Afrique, aussi bien de la part du médecin que de nos auditeurs?
Déjà, je suis, ça me touche. Enfin, je suis touchée parce que j'étais très attentive. Je suis touchée parce que j'ai envie que ces personnes bénéficient des mêmes aides merveilleuses finalement qu'on a, et je te rejoins un peu. La chance qu'on a à notre génération, ce sont les nouvelles technologies. C'est-à-dire que je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'elles arrivent, qu'elles se développent en Afrique,
pour un accès comme au plus grand nombre.
Oui, oui,
docteur
oui.
Gérard Duperron, vous vouliez réagir?
Oui, juste un petit mot. Alors, c'est effectivement la grande révolution pour les aveugles, les déficients visuels en général, c'est la révolution informatique qui crée entre le numérique et l'usager des interfaces qui sont le braille, enfin la synthèse braille, la synthèse vocale ou le téléagrandissement. Le gros problème, et ça il faut sensibiliser les informaticiens et les fabricants de logiciels, c'est qu'il faut que ces outils informatiques soient accessibles. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des sites internet qui ne sont pas accessible à une synthèse vocale, la synthèse vocale va se perdre dans une présentation un petit peu trop compliquée. Donc il faut respecter, il y a une loi qui l'impose, notre président Vincent Michel à la Fédération y insiste beaucoup, il faut vraiment aujourd'hui que le site soit accessible de façon à ce que cette révolution numérique bénéficie énormément aux déficients visuels.
Révolution numérique et recherche avec des innovations concrètes comme un nouveau système pour les patients atteints de DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA sèche. En ligne avec nous, Guillaume Bugue, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes ingénieur chez Pixum Vision, l'entreprise qui a développé ce dispositif. Première chose, Guillaume Bugue, en quoi consiste le système, cet équipement, la machine, c'est quoi précisément?
La machine, c'est un système en deux parties. Il y a une partie qui est implantée dans l'œil, donc c'est une espèce de puce électronique qui vient s'implanter à l'arrière de la rétine, sous la rétine. Et cette puce est composée de petits pixels photovoltaïques, donc qui peuvent être activés par la lumière. Et en pratique, ça vient remplacer les cellules qui sont dégénérées dans la DMLA sèche.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de mini-caméra qui envoie des informations au système nerveux?
Alors ça, la puce, c'est juste un capteur qui vient stimuler électriquement le système nerveux de la rétine dans la zone atrophique. Et puis il y a un système externe qui prend la forme de lunettes de type réalité augmentée et qui va acquérir la scène avec une caméra, qui va la traiter, la simplifier et projeter cette information dans le fond de l'œil, sous la forme d'un faisceau lumineux. Donc le fait que les petits pixels sur l'implant soient photovoltaïques va leur permettre de réagir et de stimuler sélectivement différentes zones de la rétine et de créer des motifs spatiaux qui sont envoyés au cerveau.
Alors, qui sont les patients susceptibles de bénéficier de ce système? Et est-ce que vous avez un petit peu de retour sur cette expérience?
Oui, alors on a deux études cliniques en cours sur des patients affectés de DMLA sèche atrophique, donc assez avancés. C'est notre première indication. On pourrait l'étendre plus tard à d'autres indications de patients qui ont toujours un nerf optique, qui ont toujours le lien entre la rétine et le cerveau, mais qui ont perdu la capacité à acquérir le signal lumineux par leur rétine. Et donc ces études cliniques, on a une première étude de 5 patients en France, 5 patients implantés. On est à un an, on a publié récemment les résultats qui sont bons, dans le sens où il y a une restauration chez ces patients de perception visuelle dans la zone atrophique, donc la zone où il n'y a normalement plus de perception. Cette perception est efficace au point qu'une majorité de patients arrive à reconnaître des lettres, des petits mots avec l'implant.
Donc très encourageant. Vous remercie beaucoup, hein, Guillaume Buc. Hélas, le temps nous prend. Je rappelle que vous êtes ingénieur chez Pixum Vision. Docteur Gérard Duperron, il nous reste peu de temps. Vous travaillez aussi sur cet œil, on peut dire œil bionique. Est-ce que ça fait un homme augmenté, un homme réparé? Déjà, est-ce que c'est vraiment accessible?
Alors, pour le moment, on vous l'a bien expliqué, on est encore au stade expérimental. On est sur quelques personnes. Nous, on a travaillé en phase clinique, ça s'est terminé il y a 2 ans, avec l'équipe de Pixum sur l'implant précédent, qui était l'implant Iris 2. Ce qui était important, c'était de valider le principe. C'est-à-dire, vous avez une caméra qui envoie des influx électriques sur un petit implant que l'on pose au fond de l'œil, et le cerveau va recevoir. Alors, le but pour l'instant, c'est de transformer des aveugles complets en malvoyants. On n'en est pas encore à avoir des vraies images, et bien le patient va recevoir des influx, alors qui peut être au départ, c'était des flashs qu'on appelle des phosphènes, puis des ombres, des images, ça va progresser. Et ce qu'on a validé, c'est que ça marche. C'est-à-dire qu'effectivement, on aurait pu dire, imaginer que peut-être ça marchait pas. Et en fait, ça marche. Donc le principe est validé. Maintenant, la balle est dans le camp des ingénieurs, parce que nos implants ne sont pas assez, ces petits pixels, il n'y en a pas assez dans chaque implant, et donc il faut miniaturiser, la balle est dans leur camp, mais on sait aujourd'hui que le cerveau de quelqu'un qui a perdu la vue parce que son œil ne marche plus et que son nerf optique fonctionne encore est capable de recevoir des informations signifiantes.
Il nous reste moins de 2 minutes. Amou Bouakas, pour vous, l'essentiel aujourd'hui, c'est l'intégration, l'accessibilité ou la recherche, ou vous ne voulez pas choisir entre les deux ?
Non, l'essentiel, c'est que chacun se réalise dans sa plénitude, que nos amis africains se vivent comme des citoyens et comprennent que perdre la vue, c'est jamais perdre la vie. Et que les événements sont neutres, y compris la cécité. Que la cécité, on peut la prendre comme quelque chose d'absolument positif. Que nous sommes des éveilleurs, que nous préparons l'humanité de demain et que nous n'avons pas du tout à avoir honte de ce que nous sommes, parce que nous sommes des citoyens qui avons une vision originale.
Marie, le mot de la fin pour vous. Quand on entend Amou Bouakas, qui est tellement, on va le dire, simplement bien dans sa peau, bien dans son être, vous, comment aujourd'hui vous vous sentez après des années où vous ne saviez pas qui vous étiez ?
Écoutez, je me sens quelqu'un... déjà, je pense que j'ai réussi socialement... Enfin, non, c'est pas ce que je veux dire, c'est que j'ai réussi, mais mon tissu relationnel, et ça, je pense que c'est ce qu'il y a d'essentiel pour être heureuse, c'est-à-dire que j'ai réussi à être quelqu'un de normal, entre guillemets, dans la société, avec des amis, une famille, un métier. Et je pense que c'est vraiment l'acceptation par l'autre, c'est ce qu'il y a de plus important pour être heureux, et c'est pas uniquement pour les personnes aveugles ou malvoyantes. C'est pour tout le monde, mais c'est encore plus valable pour nous.
Et votre sourire fait plaisir à voir. On vous remercie beaucoup, Marie Amou Bouakas, et vous, docteur Gérard Duperron, d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Et demain, nous allons parler de la migraine, diagnostic, traitement, prise en charge de la douleur aussi. On attend vos questions au 33 84 22 75 75. À demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, qui a désormais sa première banque, Sounou Banque Togo. Pour vous et partout au Togo, Sounou Banque vous accompagne. Sounou Banque, avec vous à chaque étape.